débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Sepp Blatter a donc décidé hier de renoncer à son poste de président de la FIFA. Il avait été réélu la semaine dernière après et malgré l'arrestation de plusieurs pontes de l'organisation pour des soupçons de corruption. Monsieur Blatter est à la tête de la FIFA depuis 1998 et son pouvoir est tel qu'en dépit de la tourmente, il a donc de nouveau été plébiscité lors du dernier congrès. Ce nouveau rebondissement, cette démission, va-t-elle obliger la FIFA à revoir sa gouvernance et son futur président à ouvrir des pratiques à davantage de transparence? Quelle nouvelle direction pour la FIFA? On va en discuter avec trois invités pour ce débat de ce soir. L'un est bloqué dans les embouteillages. Vous venez tout juste d'arriver. Vous êtes Victor Legrand.
C'est ça.
Journaliste à SoFoot, auteur d'un dossier sur Sepp Blatter, donc dans SoFoot. Bonsoir oui. À vous, Victor Legrand.
Bonsoir.
Pim Verschuren, lui, est perdu quelque part à Paris. Il est chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'impact du sport dans les relations internationales. Il a co-dirigé Paris Sportif et Corruption, comment préserver l'intégrité du sport, aux éditions IRIS. Il est au téléphone pour l'instant, mais il nous rejoint. Je pense que vous serez là bientôt, Pim Verschuren. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et puis Hugo Moissonnier, je l'ai rencontré dans les couloirs, alors messieurs que vous étiez tous les deux en train d'arriver, j'ai eu peur que vous ne soyez pas là. Il connaît bien le dossier puisqu'il travaille pour le service des sports de Radio France Internationale. Il a accepté de se joindre à cette conversation. Bonsoir Hugo Moissonnier.
Bonsoir François, et merci. Bonsoir à tous.
Alors, qu'est-ce qui a pu pousser Sepp Blatter à finalement renoncer à ce poste auquel il a été largement quand même confirmé la semaine dernière? Quoi, la fatigue, le trop-plein de mauvaises nouvelles? Qu'est-ce que vous en pensez, Victor Legrand?
Ah, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui a poussé Sepp Blatter à démissionner? La fatigue, je ne pense pas. On a eu la chance avec un collègue de le rencontrer il y a 2 mois. Je pense qu'on doit être les derniers journalistes au monde à l'avoir rencontré. Il avait en pleine forme, en tout cas. Aucune inquiétude quant à sa réélection. Non, je pense que les taux devaient se resserrer. Oui, la version classique, la version classique de l'histoire voudrait dire que, dirait que, oui, peut-être des affaires, certaines personnes ont peut-être des dossiers sur lui, des choses, un étau qui se resserre. En tout cas, pour l'instant, il nous joue la carte du sacrifice. Mmh. Il est très religieux, mmh. Sepp Blatter. Je sais pas si je connais très bien la FIFA, en tout cas, je connais assez bien Sepp Blatter, et là, il est en train de nous jouer la carte du sacrifice.
Ouais.
Et pendant quelques mois qui lui restent, il va essayer de...
Comment vous voyez ça, Hugo Moissonnier?
Il y a eu quand même ce petit rebondissement, parce que mercredi dernier, il y a un coup de filet de la justice américaine. Donc des responsables ou ex-responsables de la FIFA sont arrêtés, mais c'est circonscrit à la zone à l'Amérique. C'est des responsables qui ont exercé des responsabilités dans la zone Amérique du Sud, dans la zone Amérique centrale ou Amérique du Nord. Pour l'instant, et lui peut toujours dire, Sepp Blatter, ça me regarde pas ce que font les malversations que des gens dans leur confédération. C'est pas mon problème. Moi, je suis à la FIFA, je suis en Suisse. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Mais il y a eu un rebondissement hier puisque le New York Times a révélé que Jérôme Balk, le secrétaire général de la FIFA, qui est
très
le bras droit de Sepp Blatter, était lui aussi dans le collimateur puisqu'il aurait facilité un virement suspect, en fait un pot de vin déguisé selon la justice américaine, qui aurait permis à l'Afrique du Sud d'acheter des voix dans le but d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 2010.
Il n'y a pas de soupçon de corruption pour l'instant, hein, pas d'enrichissement personnel en tout cas à l'encontre de Sepp Blatter. Il est vrai que le président de la FIFA, si vous l'avez fréquenté, vous allez pouvoir nous confirmer ça, vit un petit peu comme un nabab quand même, tout frais payé par l'organisation, c'est le cas?
Oui, tout frais. Ça fait 40 ans qu'il est à la FIFA, il n'a jamais donné son salaire. On estime qu'il toucherait à peu près 15 millions de dollars par an. Ça serait sans doute le dirigeant d'une organisation sportive internationale le mieux payé. Il a l'avion de la FIFA, porte le nom Joe, quelque chose qui veut dire Joseph. Oui, il est un peu dans le cul de la personnalité. Tout frais payé, évidemment. Mais en tout cas, il a jamais voulu donner son salaire, à mon avis. Qui sait, qu'il doit être peut-être un peu indécent, je sais pas.
En tout cas, pas de nécessité d'enrichissement personnel, manifestement.
Non.
Je veux dire,
il
vit bien, monsieur Blatter.
Il vit très bien.
Réélu, malgré les événements, on va dire, très défavorables qui ont accompagné cette élection. Vous les avez évoqués sur ces derniers jours, Hugo Moissonnier. Comment expliquer cette extraordinaire popularité?
C'est finalement pas si compliqué que ça. Sepp Blatter, il a une version universaliste du football. Il a appuyé, entre guillemets, sa popularité sur le soutien aux fédérations, j'ai envie de dire aux déshérités un peu du football. C'est-à-dire que que l'Europe, que l'UEFA ne le soutienne pas, c'est pas tellement un souci. Il y a 209 fédérations, 209 personnes qui votent pour élire le président de la FIFA. Lui, il va aller plutôt aider en Afrique, en Asie, dans les Amériques. Et là, justement, il va obtenir des voix avec des projets de développement, les projets Gaulle. Et donc, il a donné de l'argent, il a aidé le football à se développer à d'autres endroits que ces terreaux traditionnels, entre guillemets, à savoir l'Amérique du Sud et surtout l'Europe. Et forcément, ça l'a rendu très populaire auprès des gens qui comptent, c'est-à-dire les présidents de fédération.
Donc, il y a des choses quand même qu'on peut mettre à son actif, qui ont été positives pour le football, en tout cas dans ces régions, en Afrique, en Asie, manifestement, et sur lesquelles son successeur pourra s'appuyer pour poursuivre son action. J'introduis dans la conversation Pim Verschuren, qui vient tout juste d'arriver. Vous n'avez pas couru, vous n'êtes pas essoufflé.
Bah, quand on parle de sport, ça ne me dérange pas de courir. Mais,
vous êtes chercheur à l'IRIS, donc spécialiste de l'impact du sport dans les relations internationales. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que l'héritage Blatter risque d'être, sur ce point précis que vient d'évoquer Hugo Moissonnier, c'est-à-dire essayer de donner de l'argent, des moyens au foot un peu déshérité de la planète, est-ce que cet héritage-là peut servir de tremplin à son successeur ?
Oui, je pense qu'il va avoir un candidat qui va un peu rentrer dans la lignée Blatter. Je pense quand même qu'il laisse un vide derrière lui. En 2011, il n'y a eu aucun candidat face à lui. Là, il est face aussi à des profondes divisions. Et je pense qu'il va falloir un peu tout reconstruire pour la FIFA maintenant. Certes, il y a eu des programmes de développement très consistants, des soutiens politiques dans ces confédérations. Mais il va falloir un peu refaire le ménage dans cette organisation. La procédure judiciaire va continuer. Donc il va y avoir beaucoup d'autres têtes vont tomber, je pense. Je pense que ça va prendre des années. Il va pas y avoir juste l'élection du président. Ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Donc c'est pas aussi que la question du candidat. C'est une question d'organisation, de culture qu'il faut faire évoluer. Un changement organisationnel.
Alors, intéressons-nous à ces candidats potentiels. Qui en sera ? Qui c'est qui va vouloir prendre la place du calife Victor Legrand ?
Le prince Ali, je pense.
Il l'a déjà annoncé.
Bah, Platini va essayer de se placer. En tout cas, il a bien savonné la planche ces dernières semaines. Après, stratégiquement, je sais pas exactement. Platini est quelqu'un quand même assez connu pour respecter ses engagements. Peut-être qu'il est au bout de l'UEFA. Je sais pas si juridiquement, comment il peut faire, s'il peut démissionner à la FIFA, je sais pas exactement. En tout cas, je sais que le prince Ali, il a des membres de son staff qui sont assez proches de l'UEFA. Enfin, en tout cas, d'une vision assez européocentrée. Je suis pas certain que le prince Ali et Platini soient très très différents. Peut-être qu'il va devoir se placer pour ensuite l'affronter dans 4 ans. C'est un scénario possible.
Est-ce que Sepp Blatter va désigner un dauphin? C'est une question qu'on peut se poser.
Je sais pas s'il va le désigner directement, mais en tout cas, il y aura, je pense, un candidat qui sera, oui, comme vous le dites, dans l'héritage Blatter, je pense, quelqu'un qui sera un peu le soutien, qui aura le soutien d'autres continents. Après, je pense que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas une sorte de période de transition, qu'on n'ait pas pendant un an ou deux, un président qui n'est pas un homme, entre guillemets, politique, mais plus quelqu'un comme un technocrate qui va mettre en place des réformes de fond, et puis pour préparer une élection de fond plus sur une période dans 2 ans. Je pense que c'est un peu difficile aujourd'hui de parler des candidats, parce que voilà, je pense que tout le monde a été surpris hier de cette démission, ça va prendre des mois à construire des candidatures.
En tout cas, la démission de Blatter, la désignation d'un nouveau président va amener, selon vous, des changements dans la manière dont la FIFA est gérée?
Tout le monde l'espère, c'est ce qu'il faudra. N'importe quel candidat va appeler au changement, comme d'ailleurs Blatter et Ali la semaine dernière, les deux l'appelaient. N'importe quel candidat va baser son programme là-dessus. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Et oui, on espère tous qu'il y aura un changement de fond sur les prochaines années.
Alors, quel changement serait souhaitable ?
On le voit. Tout d'abord, il faut aller au bout des procès qui vont être montés, des instructions judiciaires. Il faut mettre la lumière sur tous les ajustements qu'il y a eu ces dernières années, savoir véritablement tout ce qui se passait. Là, ce qu'on apprend hier sur la transaction de 10 millions d'euros, c'est que la FIFA payait la CONCACAF directement, alors que c'était finalement de l'argent de corruption. Donc, on voit vraiment que les transactions financières très importantes, les attributions de contrats de sponsoring, de marketing, attribution de Coupe du Monde, vote pour les nominations à la présidence, tout cela a été finalement truquées ou en partie truquées. Donc oui, il faut des nouvelles procédures, il faut des audits sur les transactions financières. Enfin, c'est quand même la base pour une organisation comme ça. Il faut aussi que l'organisation suisse, donc le parquet fédéral suisse, fasse aussi son travail. Si en France on avait une organisation comme la FIFA, où il y aurait eu plein de rumeurs, de scandales, etc., la police aurait déjà mis le nez dedans. Alors que la Suisse ne l'a jamais fait. Il a fallu attendre les États-Unis et un caractère un peu douteux d'extraterritorialité pour faire le ménage dans la FIFA. C'est un peu dommage. Je pense que la Suisse aussi a des responsabilités dans ce scandale.
Régler les problèmes judiciaires, on va dire, dans cette affaire. Je fais un tour de table sur les changements souhaités ou souhaitables. Hugo Moissonnier.
Je pense que, comme l'a dit Pim Verschuren, faut professionnaliser la FIFA. La FIFA, c'est dans ses statuts, une association à but non lucratif. Elle a 111 ans. Elle a été créée à l'époque par 7 personnes. Je crois que même qu'il y a encore 20 ans, il y avait 15 employés, je crois, à la FIFA. Maintenant, il y en a 400. Les revenus ont explosé grâce à Sepp Blatter. Hein. Pour le coup, c'est à mettre à son crédit, même notamment en raison de l'augmentation des droits télé, des contrats marketing liés à la FIFA. Dorénavant, c'est une multinationale qui génère plus d'argent que certains États, la FIFA, et elle est toujours gérée comme si c'était une petite association à but non lucratif. Et on voit bien qu'il n'y a pas suffisamment d'outils de régulation aux différents niveaux. Ça manque de transparence, ça manque clairement de transparence. La FIFA doit rentrer un peu dans le 21e siècle, et pas seulement générer de l'argent, mais aussi savoir comment générer proprement cet argent et le gérer proprement.
Mm-hmm. Victor Legrand.
Je pense que l'une des réformes qui pourrait être envisagée, c'est le mode de gouvernance. Parce qu'en fait, dans une démocratie classique, quand on élit un président, par exemple, je sais pas, François Hollande constitue son gouvernement. En fait, ce qu'il faut comprendre avec la FIFA, c'est que Blatter est élu, mais c'est pas lui qui élit le comité exécutif. Alors, c'est les confédérations qui font partie du comité exécutif, mais c'est les présidents des fédérations nationales qui élisent le président. Donc en fait, c'est un peu comme si, je me souviens de Jérôme Champagne que j'ai rencontré pour Blatter, qui me disait, c'est comme si Sarkozy était élu, ou alors François Hollande, et devait composer avec Marine Le Pen, François Bayrou et Nicolas Sarkozy. Donc c'est un mode de gouvernance qui est très compliqué. Et donc quand on laisse les confédérations gérer la FIFA, et on sait que tout est arrangé au niveau des confédérations, toutes les histoires qui viennent de sortir sont des problèmes de confédération, je pense que Blatter va essayer de changer ça. Va nous la jouer réforme. En tout cas, d'après ce qu'il dit, c'est ce qu'on peut lire. Il va essayer, je pense, de changer tout ça.
Vous voulez lire sur les quelques mois qui viennent et pendant lesquels il va encore exercer la présidence ?
Alors, qu'est-ce qu'il va faire pendant quelques mois ? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il va vouloir redorer l'image de la FIFA ou redorer son image ? Je pense qu'il a assez des... C'est une grande question. Bon. Je pense qu'il a assez d'ego pour pouvoir d'abord s'occuper de lui avant de s'occuper de la fédération.
En tout cas, on a envisagé quelques vœux pieux, je dirais, de réformes possibles. Et la FIFA, je lisais ça, devenu un monstre, selon le jugement même du prédécesseur de Blatter, qui s'appelle João Avalanche. Comment redonner donc à ce monstre, comment concrètement arriver à lui donner, on va dire, une allure plus humaine, parce que tellement d'argent qui est impliqué dans cette affaire. Pim Verschuren.
Je pense que le CIO en tant que tel, le comité olympique, n'est pas forcément un exemple. Je ne sais pas ce qui se passe finalement dans les décisions, dans les attributions aussi des Jeux Olympiques au CIO, mais en termes d'affichage public, ils ont un peu gagné la partie depuis Salt Lake City. Il y a des procédures très claires, ils ont fait un congrès exceptionnel en décembre dernier où ils ont mis un agenda 2020 et j'ai l'impression que le public y croit. Je ne sais pas si en réalité l'attribution des Jeux Olympiques est plus claire que la Coupe du Monde, je ne sais pas véritablement ce qui se passe, mais en tous les cas, en termes d'image, ils s'en sortent beaucoup mieux, et je pense que là aussi il y a un modèle à prendre, déjà beaucoup plus communiquer sur les procédures de transparence, mettre des règles très claires sur les commissions d'évaluation, sur les dossiers de candidature de chaque ville candidate aux Jeux Olympiques ou des pays candidats pour la Coupe du Monde, interdire aux délégués, aux candidats de rencontrer les membres du CIO, éviter qu'il y ait des transactions financières, enfin en tout cas les interdire. Je pense que voilà, il y a tout un ensemble de réformes possibles. Une autre possibilité aussi pour la FIFA, ce serait de dissocier l'activité commerciale de la FIFA, donc la gestion de la Coupe du Monde principalement, cette espèce de poule aux œufs d'or qui rapporte tant d'argent, et tous les programmes de développement dont on parle beaucoup, les programmes de charité, etc., d'infrastructures. Pourquoi pas créer une structure commerciale proprement dite qui gérerait les revenus de la Coupe du Monde et les autres compétitions, et pourquoi pas aussi donc les revenus de sponsoring, et en même temps créer une sorte de faire de la FIFA une fondation qui développe le football dans les pays tiers, etc. Mmh. Je pense que ce serait peut-être une bonne idée.
Parce que la FIFA va, selon vous, je pose la question, devoir poursuivre cette politique de rééquilibrage, on va dire, entre pauvres et riches, entre vieilles nations du foot et pays qui développent ce sport, Victor Legrand.
C'est soit la FIFA reste le désir de Sepp Blatter, c'est-à-dire développer le football, c'est sa grande phrase, de dire je développe le football à travers le monde grâce à la FIFA, soit la FIFA redevient ce qu'elle était avant, c'est-à-dire une sorte de confédération d'une grande Europe, peut-être plus les États-Unis, un grand marché asiatique comme le Japon. Ça va être la grande question. Mmh. C'est tout son combat, il est là depuis des années, c'est de dire que... Moi, je me bats contre une vision européocentrée, l'européocentrisme, il adore ce terme. Donc.
Représenté par Platini, manifestement, si on entend les analystes sur le sujet. Est-ce qu'il ressort renforcé de la lutte qu'il a menée contre Blatter ces dernières années, vous pensez, Hugo Moissonnier? Est-ce qu'il devient le candidat idéal, d'une certaine manière?
Il n'y a pas si longtemps, il a déclaré... Moi, je m'occupe du football et l'UEFA, c'est le football. Et il y a quelques heures sur l'antenne de RFI, un dirigeant de la fédération malienne lui reprochait déjà cette phrase. Je pense que ça va être compliqué pour lui de se défaire de cette image défenseur de l'Europe toute puissante, l'Europe traditionnellement lieu du football. Ça va quand même être un peu compliqué. Je sais pas. Il était aussi accusé un peu de lâcheté puisqu'il il voulait y aller, puis finalement il n'y est pas allé parce qu'il pouvait pas gagner face à Blatter. Il a reculé. Il a préféré soutenir une autre candidature, celle du prince jordanien Ali. Est-ce qu'il se renforçait? Vu de France, vu d'Europe, on a l'impression que oui, c'est l'homme de la situation, c'est ce qu'on entend. Je suis pas certain que en Afrique, pour travailler un peu sur le sujet, cette vision soit partagée.
Victor Legrand.
En fait, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à Platini, c'est assez drôle, ces réactions de ces derniers jours, parce que quand on connaît vraiment le cœur de leur relation, tous les deux, moi, personnellement, ça me fait beaucoup rire, parce qu'il y a une relation quasi oedipienne entre les deux. Mmh. Platini adore Blatter, est fasciné par le monstre politique Blatter, et Blatter qui a toujours rêvé d'être un footballeur, un vrai, vrai connaisseur du foot, par contre. Je pense admire Platini. Pour l'anecdote, aujourd'hui, il se tacle médiatiquement, mais moi, quand je suis allé à la FIFA il y a 2 mois, il y a un membre de la FIFA qui me racontait que chaque année, il y a un tournoi de foot que la FIFA organise, qu'il y a plein de tournois, plein de terrains de foot autour, et qu'il y a encore 1 ou 2 ans, ils étaient en train de boire une bière ensemble autour de ce tournoi de foot qui est organisé, il y a un peu comme un tournoi de foot intermédiaire entre l'UEFA, la FIFA, enfin, ils se rencontrent, ils se parlent, c'est un jeu politique tout ça.
Pim Bergeren, sur cette question de l'accession de Platini à la...
Oui, on va voir. Je pense que Platini, lui aussi, a été surpris hier. Les négociations ont commencé. Je pense qu'il y aura des négociations directement entre l'UEFA et la Confédération africaine, directement, parce qu'on sait aussi qu'il y a des votes par bloc, et que donc la Confédération africaine a un pouvoir sur les membres africains, et idem pour les autres continents. On a vu que c'est comme ça que ça s'est passé, d'ailleurs, dans les différentes affaires. Donc, je pense qu'il y aura des négociations. Ça, c'est que le début, que ce soit Platini ou un autre candidat soutenu par l'UEFA. Ça va être un candidat... Je pense parmi les favoris, forcément. Mais oui, Platini, tout le monde se tourne vers lui parce que la semaine dernière, il a mis sa chemise en jeu, quoi. On disait que c'était le grand perdant un peu quand Blatter a été réélu. Et finalement, aujourd'hui, je pense qu'il est, c'est le grand vainqueur puisque il s'est mis personnellement, émotionnellement, dans la balance. Mmh. Et là-dessus, je pense qu'il a remporté. Après, est-ce qu'il va se présenter ou pas? On va voir.
Allez, il nous reste quelques secondes pour conclure. Hugo Moissonnier, est-ce qu'on peut penser que les choses vont vraiment changer?
Ça, je suis pas
demain,
j'ai pas amené ma boule de cristal, m'avait pris un peu au dépourvu tout à l'heure, en tout cas, force est de constater que la FIFA va pas pouvoir se permettre d'autres scandales de corruption, mais celui-là n'est pas encore terminé puisque la justice américaine a promis d'autres arrestations, donc à voir. Je suis un peu d'accord, il va falloir faire un grand ménage, je suis pas certain que la FIFA soit prête à le faire.
Victor Legrand.
Je pense que Blatter va nous jouer la carte de l'éthique pendant les 6 mois qui lui restent. Je rappellerai juste qu'en 2002, quand il s'est fait élire à Séoul, il avait dit je vais remettre la FIFA, le bateau de la FIFA, sur des eaux claires et transparentes. Mmh. 15 ans après, il lui reste 6 mois en tout cas.
Pim Bergeren, pour conclure.
Oui, pour conclure, la grande leçon je prends de ces derniers jours, c'est qu'il y a quand même la première fois qu'une enquête judiciaire sérieuse, appliquée, qui va aller jusqu'au bout, fait le ménage dans la FIFA, et que c'est un signal à toutes les fédérations sportives qui sont hébergées en Suisse et qui profitent d'une certaine immunité judiciaire, plus que fiscale aussi. aussi. Et voilà, je pense que c'est un peu ça le grand enseignement.
Bon, sur une note d'espoir, on termine cette conversation alors. Merci à tous les trois. Victor Legrand, journaliste à SoFoot, Pim Verschuren, chercheur à l'IRIS, et Hugo Moissonnier, journaliste au service des sports de Radio France Internationale. Merci également à Florence Pons qui a préparé cette émission, Valentin Vaner qui la réalise, et Déborah Lepage à la documentation. Demain, on évoque la Serbie de l'après-guerre. Bonsoir à tous. Un nouveau journal sur RFI dans quelques secondes.